Tu parlais à un moment donné de Artaud. Le jugement de Dieu a été une rupture dans la manière de concevoir la vocalité ?
Oui, bien évidemment. C'était comme un choc la première fois. Un choc concernant la voix, mais un choc aussi concernant une position, une attitude vis-à-vis de la société. C'est un bloc qui est apparu de manière très, très, très importante. Bien sûr, je pense, même si je n'ai pas travaillé de manière analytique sur le jugement de Dieu, ça veut dire que je n'ai pas pris la pièce pour analyser qu'est-ce qui se passe à chaque moment, mais je l'ai écouté à plusieurs reprises. Hein. Pour moi, s'associer aussi avec les expérimentations de vocal artists, qui sont des artistes qui ont des qualités vocales assez poussées, comme d'ailleurs le grand chanteur professionnel, hein, qui expérimentait la voix de manière très poussée. Et bien sûr, eux, ils étaient influencés par Artaud, par Orchonate, mais aussi par les compositeurs du XXe aussi.
Tu cites Cathy Berberian. Mais...
J'ai beaucoup lu et écouté Cathy Berberian. Chanteuse que j'admire énormément, passe d'un style à l'autre, d'une vocalité à une autre, mais avec un talent d'acteur aussi, hein, d'interprète-acteur, qui est vraiment étonnant, très très étonnant. C'est le paradigme du XXe qui bouscule le genre.
Dans les Bacchantes, tu utilises une voix, un travail d'acteur, et en même temps, tu fais interpréter tous les rôles par un seul. Les quatre rôles sont interprétés par un seul acteur, et là, tu vas utiliser l'informatique pour faire des masques.
En fait, Médéric Collignon, qui vocalise et les quatre personnages, utilise plusieurs types de techniques vocales. Ce que j'appelle masque vocal, c'est un ensemble de masques. Donc, c'est la voix naturelle, c'est déjà un masque, et les traitements électroniques. Les deux vont de pair. On peut écouter, par exemple, pour Dionysos, j'utilise les voix d'instruments en vent, avec toute cette dextérité que Médéric peut apporter à la voix des Dionysos, et puis la voix sifflée, expirée et aspirée parfois. Donc c'est une voix avec beaucoup de bruit, hein, avec un « on l'entend. Et en même temps, on entend des sifflements très très aigus. Pour cette voix-là, on sait très bien que ce n'est pas les cordes vocales qui sont mises à vibration, mais c'est l'air qui passe entre les cordes vocales qui sont très 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 serrées, qui sont très peu ouvertes en fait. Ensuite, pour la voix du roi Panté, je lui ai demandé de faire trois voix différentes. La première partie de la pièce, c'est la voix aspirée, bruitée, et la voix growl. Nous avons plusieurs types de voix growl, qui va de Louis Armstrong aux voix africaines, qui va jusqu'au death metal. Et quand le roi Panté commence à être séduit par le dieu étranger, il est convaincu par Dionysos de se déguiser en femme, afin de pouvoir voir les miracles des Bacchantes, les orgies divines, c'est pas la débauche comme on peut l'entendre aujourd'hui. Là, il utilise la voix de femme, la voix Onagata, et je vais demander à Médéric de combiner une voix qu'on trouve dans le théâtre non, qui chante comme une femme, une voix très aiguë, et en même temps d'imiter une voix d'une jeune fille africaine. Dans cette voix-là que j'avais trouvée, j'ai été très impressionnée, très choquée quand j'ai appris qu'est-ce que c'est que cette voix douce, tellement douce. Et c'était un chant d'excision. Le son était tellement agréable, doux, comme une berceuse. Une voix très éthérée, avec du souffle. C'est la combinaison de ces deux voix que je lui ai demandé pour le roi Panté déguisé en femme. Il y a la voix du messager. Le messager court, annonce ce qui s'est passé, ce qu'on ne voit jamais sur scène. C'est une récitation rapide, déclamation rapide, avec avec une voix aspirée et expirée. Et finalement, c'est la mère Agave, la mère du roi Panté. Et finalement, c'est Agave, la reine et mère du roi Panté, qui travaille avec divers types de cris. Elle tue son fils, croyant que c'est un petit lion, un jeune lion. J'ai demandé à Médéric, au début de l'épilogue, de la dernière partie, de faire un très 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 long glissando qui va de ses notes, de son registre très grave jusqu'au très aigu, en passant par plusieurs vocalités possibles telles que qu'on les avait travaillées en studio. Ce long cri qui intègre les vocalités possibles est ensuite accompagné par des lamentations du monde que j'ai intégrées dans la bande son.
Dans le programme, il y avait aussi alors roll and roll, ça se répète. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on entend un autre type de musique.
La pièce a une forme kaléidoscopique, je dirais. Effectivement, chacune des cinq pièces, là j'envisage à écrire une sixième d'ailleurs, chaque pièce a une idée qui est élaborée. Par exemple, la toute première qui s'appelle Glissandi, j'ai décidé de travailler avec un cliché du jeu harpistique qui est le glissandi. Et donc c'est un son que j'imagine plusieurs compositeurs ne voulant plus entendre, parce que c'est tellement un cliché qu'on entend dans les concertos ou dans les pièces pour orchestre. C'est l'image de la harpiste éthérée avec les cheveux dorés qui fait des glissés. Donc, je me suis dit, pour moi c'était un défi, je vais faire une pièce où il y aura que des glissantes. C'était ça l'idée, et donc il y a un tourbillon créé par des glissés qui sont repris par l'électronique d'ailleurs, et à la fin il y a un éclat des glissés dans tous les sens et dans la salle aussi, parce qu'on spatialise à ce moment-là le son. Donc le titre de la première pièce est Tourbillon.
Comment vous faites dans les choix des titres particulièrement, justement vous expliquiez Glissandi, mais en fait son titre et autres.
Le matériau c'est les glissandi, donc c'est normal. Et après j'ai changé le titre en tourbillon parce que il y a un retour constant de ces glissés aussi dans l'écriture que dans la salle. Donc c'est pour ça que je l'appelais Tourbillon. Après pour Mobile, c'est une pièce qui est construite par l'interprète, par Hélène Préchamp qui a créé la pièce au Centre Pompidou. Elle est construite en fait par l'interprète. Chaque section, j'ai défini les objets sonores, les gestes de chaque section et les durées approximatives. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un bagage de gestes et une accumulation progressive. À certains moments, il y a un déréglage progressif de cette machine qui commence comme un jeu d'enfant, comme un robot. C'est très rythmé, il y a une pulsation constante, on s'en aperçoit très rapidement, c'est très simple, c'est naïf. Et ces petits jeux, ces petits robots, c'est des faits petit à petit, ils tombent en pièces. Ce n'est pas forcément l'image que l'auditeur imaginez. En tout cas, c'est une espèce de schéma formel pour moi, ces petits jouets qui se défait. Après, il y a une autre pièce qui s'appelle Paris qui crie. Dans cette pièce, fonctionne aussi avec des gestes, objets sonores. Ces gestes sont fixés pour chaque section. Il y a un certain nombre qui est fixé. Pour la création et pour les répétitions d'ailleurs, comme il y a une ambiance je dirais très créative, on pourrait jouer avec ces pièces. Et j'ai demandé même si les pièces sont écrites note par note, j'ai demandé à Hélène de faire du stretching, d'agrandir les sections, de les raccourcir, de les jouer un peu plus rapidement, un peu plus lentement. Donc c'est assez agréable ce type de travail que je n'avais pas fait auparavant. J'étais tout à fait d'accord qu'elle joue cette pièce de cette manière-là. Et bien sûr, elle la joue telle qu'elle est écrite aussi, et elle peut aussi jouer avec. Et donc ces deux vu de la partition m'intéresse, c'est surtout quand l'interprète a la notion du temps, de la forme, et bien sûr le fait qu'on a travaillé plusieurs jours ensemble pendant une année a donné cette espèce de flexibilité et d'espèce de communication.